Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
À tous, merci pour votre présence pour cette session de sensibilisation organisée par l'Académie du MEDEF. Juste un petit mot sur l'Académie. C'est un organisme de formation intégré au MEDEF qui a pour vocation à faciliter la transmission des informations stratégiques à l'ensemble des entreprises du réseau MEDEF, mais également à toutes celles et ceux qui ont à cœur de défendre l'intérêt des entreprises et de l'entrepreneuriat. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Charles Mario qui va nous présenter rapidement le sujet, qui va se présenter également et qui présentera nos intervenants.
Merci beaucoup Gauthier. Donc, bonjour à tous. Merci en tout cas pour votre présence. Donc très rapidement, donc moi je suis Charles Mario, je travaille au MEDEF où je suis responsable de l'économie numérique, la cybersécurité et le numérique durable. Et dans ce cas, je travaille également au sein de la commission Mutation technologique et impacts sociétaux, dont l'objectif est de décrypter les enjeux technologiques et leurs répercussions sur les sphères économiques, juridiques ou sociétales, en tenant compte bien sûr des spécificités du tissu économique et donc des besoins des entreprises qui sont très très différentes au MEDEF. Et à ce titre, donc sur ce webinaire consacré à la manière dont on peut protéger les noms de domaine et sa marque sur Internet, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux intervenants de l'AFNIC, Lotfi et Michael, qui vont nous présenter donc le rôle joué par les noms de domaine dans la visibilité d'une entreprise, les risques entourant ceci, ainsi que la manière dont on peut s'en prémunir. Donc Lotfi, Michael, je vous remercie encore pour votre disponibilité en cette journée de grève et puis je vous laisse vous présenter peut-être et effectuer cette présentation. Merci encore.
Merci. Lotfi, je te laisse la parole pour commencer, pour te présenter.
Très bien. Bonjour, donc je suis Lotfi Bagnélès, je travaille à l'AFNIC depuis une dizaine d'années maintenant. Auparavant, j'étais consultant dans le conseil en management. Et donc à ce titre, j'ai mis en place à l'AFNIC les activités de conseil dans un premier temps et de formation. Donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité du pôle conseil et formation de l'AFNIC.
Et donc, je crois que c'est à moi d'enchaîner et d'embrayer directement sur la présentation. Donc, je suis Michael Vigreux. Je suis aussi salarié d'AFNIC depuis presque 10 ans. Avant, je travaillais chez Bouygues Télécom. J'ai fait du marketing et du commercial. En fait, je ne fais pas que, tout comme l'autre fille d'ailleurs, je ne suis pas que salarié de l'AFNIC, j'ai une activité, je suis également entrepreneur à côté. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Alors, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas avec le filtre, mais ce n'est pas grave. Je suis également des animateurs de l'émission « Connecte ta boîte » sur BFM TV. RMC Découverte et RMC Story, où je suis entouré de Philippe Bloch, le créateur de Columbus Café. Et c'est une émission qui a été lancée en 2021 pour aider les commerçants, les artisans et les professions libérales à passer au numérique et à réussir avec. Depuis bientôt 10 ans, j'accompagne les entreprises autour des noms de domaine, parce que Lotfi et moi, nous travaillons pour l'AFNIC. Alors, je ne sais pas si j'ai récupéré la main sur la présentation.
Alors non, mais
faut que je la charge ou pas?
Ouais, ça va, on
je l'ai fait avant.
On occupe du coup.
Je l'ai fait avant.
Merci votre fille. Donc on travaille pour l'AFNIC. Je ne sais pas si dans la salle il y en a qui connaissent l'AFNIC. AFNIC, c'est donc un acronyme qui veut dire Association française pour le nommage Internet en coopération. C'est une association à but non lucratif et de droit privé. Alors pour la petite histoire, on a été créé par l'INRIA. On a été créé il y a 25 ou 30 ans, je me souviens plus de la date exacte. Alors il y en a qui ont leur micro qui est activé et qui coupent ma voix, s'il vous plaît. Voilà. Et donc l'AFNIC, notre rôle, c'est de gérer les noms de domaine en .fr, notamment. On gère les noms de domaine en .fr, mais également en .re pour La Réunion, WS pour Wallis et Futuna, .pm pour Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Ça, je ne vais pas m'étendre. On en gère une vingtaine en tout. Celle que vous connaissez le plus, c'est donc le .fr, le point Paris pour la ville de Paris, le point BZH pour la Bretagne. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle. Le point Corsica et le point Alsace sont des extensions dont nous avons la gestion technique.
Le Gabon aussi et le Sénégal.
Le Gabon et le Sénégal, exactement, exactement. Et on accompagne également des grandes entreprises françaises à lancer leur propre extension. Je pense au point Leclerc, au point MMA, Bostik, Aquarelle, SNCF, qui sont donc nos clients. Donc ça, c'est notre rôle. Si je devais donner une image, je dirais que le rôle de l'AFNIC, on est un peu les notaires de l'Internet français. Alors, j'aime pas du tout ça, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre le système. On a des créateurs d'entreprises ou des entreprises qui sont déjà existantes, qui enregistrent des marques, qui enregistrent ou qui veulent tout simplement enregistrer le nom de leur entreprise en nom de domaine. Donc, elle s'adresse à un cabinet d'avocats, à un hébergeur, à une agence de communication ou un freelance. Et ce tiers va venir enregistrer chez nous le nom de domaine. Et nous, on est là pour assurer que l'entreprise A a bien le nom de domaine A.fr qu'elle a enregistré. Ça, c'est notre job principal. Le deuxième, et qui est là vraiment essentiel, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il est fondamental parce que dans ce que l'autre va présenter ensuite, vous allez voir que le nom de domaine, il y a des impacts très forts sur la cybersécurité. C'est un mot qui peut faire peur, mais on va, en tout cas, on va vraiment tâcher, l'autre et moi, aujourd'hui, d'essayer de vulgariser tout ça pour que vous puissiez repartir de ce webinaire avec un maximum d'actions très concrètes à mettre en place. Vous allez voir, c'est simple. Et donc le deuxième job, je dirais qu'on est le réseau d'aiguillage de l'Internet français, dans le sens où on a nos téléphones portables, on a nos ordinateurs et on passe notre vie à aller sur des sites Internet, à chercher des réponses aux questions qu'on se pose. Et donc on tape un nom de domaine, par exemple medef.fr, au hasard. Et donc en envoyant cette requête sur notre navigateur, le navigateur remonte sur notre connexion Internet. Je fais très simple, hein, mais l'opérateur télécom et in fine, Medef.fr arrive dans nos services, chez nous, puisque c'est du .fr. Et nous, on dit à celui qui nous envoie la requête, où est-ce que le dossier, entre guillemets, où est caché le site Internet Medef.fr? Et donc, Medef.fr, c'est la traduction d'une adresse IP. Vous savez, cette suite de chiffres avec des points. Je sais pas moi, 182.320.03.017. C'est ça. Alors, Lotfi, si tu peux passer la slide, s'il te plaît, on va avancer dans la présentation. Voilà, c'est quoi un nom de domaine? Voilà, n'hésite pas à avancer en même temps. Donc, techniquement, un nom de domaine, vous l'avez sous les yeux, c'est la partie qui est donc mon-site.fr. Ça, c'est un nom de domaine. Ce qu'il y a avant, ça va pas nous intéresser aujourd'hui. Ce qu'il y a après, ça ne nous intéresse pas, mais. Voilà, ce que je vous donne là, c'est plutôt de la culture. Donc, quand je parle de nom de domaine, c'est cette partie-là que vous enregistrez, uniquement la partie qui est soulignée. Je ne sais pas si parmi vous, déjà, il y en a qui ont un nom de domaine, mais n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Si c'est le cas, on pourra commenter, on pourra regarder. Allez, on passe. Voilà. Donc, un nom de domaine, ça sert à quoi? Pourquoi je dois enregistrer mon nom de domaine et quand? Alors, ça, c'est un point qui est vraiment central. Un nom de domaine, on pourrait dire que c'est l'adresse de votre site internet. C'est également votre signature numérique. Alors vous voyez, j'ai mis les cartes de visite, etc. Mais le nom de domaine, c'est ce qui va vous permettre de communiquer. Ce matin, alors j'ai déposé mes enfants à l'école, j'ai circulé entre les différents filtres qu'il y avait et bouchons qu'il y avait sur la route. Et j'ai croisé une voiture et j'ai pensé à vous tous aujourd'hui. Et sur la voiture, il y avait un gros logo Facebook, un gros logo Instagram et un troisième logo, je crois que c'était Twitter ou LinkedIn. Et c'est tout. Et je me suis dit, tiens, Ça doit être quelqu'un qui travaille pour ces trois sociétés-là, ou alors qui doit être payé par Facebook, payé par Instagram et payé par Twitter pour mettre leur logo sur leur voiture. Et en fait, j'ai fait le tour de la voiture, parce que où elle m'a dépassé, je ne sais plus. Et là, j'ai vu le nom de la marque. Et je me suis dit, mais pourquoi elle communique sur Facebook, Twitter et Instagram? Je vois pas l'utilité. Le nom de domaine, en fait, c'est ce qui va marquer votre marque sur Internet. C'est ce qui va vous permettre de comment dire, gagner en crédibilité, alors vis-à-vis des clients, partenaires, investisseurs, prospects, les éléments que j'ai mis là sur sur la diapo. Alors pourquoi? Si je parle aux créateurs d'entreprises, généralement le premier réflexe qu'ils ont, et je pense que c'est une erreur, premier réflexe, c'est se dire, je crée ma boîte, je vais faire comme je fais personnellement, donc je vais créer une page Facebook, je vais faire un petit compte LinkedIn ou un compte Instagram, et puis pour ma boîte mail, je vais sur Gmail. Et en fait, c'est de l'amateurisme. Quand on est une entreprise, on doit se professionnaliser, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. Enfin, on n'imagine pas une grande entreprise, que ce soit du CAC 40 ou autre, mais communiquer avec des boîtes mail en gmail.com ou wanadoo.fr ou free.fr. Vous imaginez? Si la grande entreprise ne le fait pas, la petite entreprise et la PME ne doivent, enfin, la PME ne doit pas le faire tout simplement. Et avec un nom de domaine, vous allez voir, c'est un outil qui est fabuleux. On peut faire plein de choses. On peut déjà créer son site internet. C'est l'élément auquel on pense, donc monentreprise.fr. Ok, ça c'est simple. Avec ce nom de domaine, on peut également, comme on est titulaire du nom de domaine, on peut créer des adresses email. C'est-à-dire que si j'ai enregistré monentreprise.fr, eh bien, je peux créer contact@regardexpert.fr, au hasard, Marie. Super pratique. Et puis, je peux également créer des emails pour chacun de mes collaborateurs. Et mieux, je suis le seul à pouvoir le faire, puisque je suis l'unique titulaire de ce nom de domaine-là. Et enfin, je peux également enregistrer un nom de domaine pour faire une redirection vers bah, peut-être ma page Facebook, mon compte LinkedIn ou autre, en attendant de créer mon site internet. Par exemple, si vous allez sur michaelvigreux.fr, alors j'ai pas créé de site internet pour ce nom de domaine-là, mais michaelvigreux.fr existe vraiment, et j'ai fait un lien vers ma page LinkedIn. Moi, ça me permettrait de faire une carte de visite. Sur ma carte de visite, mettre michaelvigreux.fr. Et en fait, c'est juste une redirection vers mon compte LinkedIn. Et en dessous, bah, mettre mon email contact@michaelvigreux.fr. Et ça fonctionne tout de suite. Voilà, je vois on a plusieurs utilisateurs qui ont des très beaux noms de domaine de par ailleurs. Alors, on va avancer. Hop, s'il te plaît, au-dessus. Voilà, bon, ça illustre un petit peu mon propos. Donc, par pitié, ne faites plus de publicité pour Gmail, pour Wanadoo, pour Orange. Voilà. Si dans votre portefeuille d'adresse email, si vous avez ce type d'email, bah, dites-vous que vous envoyez une image vraiment d'amateur à vos clients, enfin, clients, investisseurs, etc. Donc, pitié, ne le faites pas. Mais voilà, communiquez bien toujours sur votre nom. Alors, comment bien choisir son nom de domaine? Je dirais qu'il y a trois critères. C'est le conseil que je donne toujours. Le premier, et quand je regarde ce que vous m'avez mis dans le chat pour ceux qui ont répondu, pour mémorisable, en cohérence avec et en cohérence avec votre activité. Voilà, simple et mémorisable. Vraiment, c'est comme les blagues, les noms de domaine, vous savez, les plus courts sont les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Finalement, on peut dire tout simplement, je prends ma marque et je colle dessus. Alors après, ça, c'est vrai. Et en même temps, si j'ai une activité très locale, ciblée sur une région, un pays, une ville, pourquoi pas faire comme plombier-rouen.fr. J'habite à Rouen. Ça marche bien aussi parce que tout de suite, c'est court, c'est mémorisable. C'est bien. Le deuxième point, c'est que ça doit être lisible. Imaginez-vous que vous financez une campagne de publicité sur les affiches, métro parisien ou sur du JC Deco ou autre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre son nom de domaine, c'est ce qui vous représente. On n'a pas besoin de payer une campagne de pub pour mettre un logo Facebook ou un logo Instagram. La société Meta ne nous donne pas d'argent pour cofinancer cette campagne de pub. Donc, quand on fait de la publicité, on communique sur sa boîte, son nom. Ça, c'est son nom de domaine, finalement. C'est ce qui vous représente en ligne. Donc, il faut juste s'assurer que votre nom de domaine, il est bien lisible quand vous communiquez dessus et que surtout, il est plus que facilement prononçable, je dirais. Et là, ça va avec le troisième point. Dites-vous que, alors moi personnellement, je suis très exigeant sur l'orthographe, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et on n'écrit pas forcément tous la même chose. Donc imaginez cette fois-ci que vous financez une petite campagne radio, et à la fin du spot radio, on dit et retrouvez-nous sur .fr. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout le monde va bien entendre le nom de domaine que vous allez donner et sera bien capable de le réécrire. Je vous donne un exemple très simple. 4x4 ou 4x4.fr, on l'écrit comment ? Est-ce qu'on l'écrit en chiffres ? Est-ce qu'on l'écrit en lettres ? Est-ce qu'on l'écrit x FOIS ? Est-ce que je mets un X pour faire une croix ? Il y a un doute. Et quand il y a un doute, il faut peut-être soit enregistrer les deux versions ou plusieurs différentes versions, soit on change de nom. Allez, on change de slide. Hop, l'étirer les accents. Alors, je vous donnais un exemple très simple. Nous, pour communiquer sur le .fr, vous voyez dans le petit rectangle rose, on a choisi réussir en .fr. Et on a choisi la version avec l'accent et avec le tiré. Alors, peut-être que c'était pour éduquer les créateurs d'entreprise, mais c'est aussi parce que tout simplement, le cerveau humain préfère quand c'est correctement écrit. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, sociétégénérale.fr. En fait, on se dit, mais sur les noms de domaine, il n'y a pas d'accent. Et en fait, si, sociétégénérale.fr, je crois qu'il y a 4 accents dans le nom de domaine. Ouais, il y a 4 accents. Michael, je pourrais l'écrire avec un accent tréma. Je peux utiliser, en fait, tous les caractères accentués, latins, et même le headset allemand. Je ne sais pas s'il y a des Alsaciens dans le coin, mais ou des gens qui travaillent avec l'Allemagne, c'est possible. Maintenant, si c'est possible, est-ce que je dois le faire ? Est-ce que d'un point de vue marketing, c'est pertinent ? Est-ce que d'un point de vue technique et même cyber, c'est pertinent ? Mon conseil, c'est le suivant. Si votre marque, elle a un accent dans son nom, il faut enregistrer les deux versions, celle accentuée et celle non accentuée. Si vous avez plusieurs mots, je pense que le tiret, et là, c'est très personnel, mais je pense que le tiret améliore la lisibilité de votre nom sur Internet. Regardez mon entreprise, tout attaché, et mon-entreprise.fr. On voit très bien que quand il y a un tiret, le cerveau humain va plus vite à lire le nom de domaine et le comprend mieux. Alors, c'est peut-être du détail, ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi, typiquement, pour communiquer et pour me protéger ? La première chose, je vous dirais, c'est d'enregistrer les deux versions. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça va éviter à un tiers de le faire. J'ai peut-être pas passé assez de temps en amont, mais c'est vraiment plus simple d'enregistrer un nom de domaine que de chercher à le récupérer. On pourra parler de façon de récupérer les noms de domaine quand il y a un litige avec un tiers, mais un nom de domaine, ça me coûte entre 5 et 10 euros l'année. Pour l'enregistrer, il me suffit juste d'avoir une raison sociale ou un nom, un prénom, si j'enregistre à mon nom à moi, une adresse physique, un numéro de téléphone, une adresse mail, c'est tout. Je n'ai pas besoin de cabis, je n'ai pas besoin de numéro de sirène. C'est vraiment très, très simple. Donc, n'importe qui, comme il n'y a pas de contrôle a priori, enfin, il n'y en a plus, n'importe qui dans le monde entier peut techniquement enregistrer un nom de domaine en .fr. Maintenant, a posteriori, il y a des contrôles qui sont opérés par la FNIC parce qu'on est très régulièrement sollicité par… Enfin, on travaille en partenariat avec les douanes, la DGCCRF, et plein d'autres d'autres acteurs, ça va jusqu'au cabinet du Premier ministre, qui nous demande régulièrement de vérifier que le nom de domaine qui a été enregistré, bien le contact qui est derrière, est bien éligible C'est-à-dire qu'il habite une résidence physique en Union européenne et qu'il est joignable. Et si ce n'est pas le cas, on supprime les noms de domaine. J'ai une question de Julie très très intéressante qui me dit, et s'agissant des majuscules, eh bien les majuscules n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que si je l'écris un nom en majuscule ou en minuscule, ça change rien. C'est le même nom de domaine. C'est tout pareil. On passe. Alors, quand est-ce que je dois enregistrer mon nom de domaine? Alors, vous voyez ce qui est en bleu là, c'est vraiment essentiel ce que vous avez. Et là, on est déjà dans la cyber en fait. Dans le sens où la règle sur les noms de domaine, et quelle que soit l'extension d'ailleurs, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, je me dis, tiens, là tout de suite, pendant le webinaire, j'ai une idée, je prends mon téléphone, j'enregistre un nom de domaine, il est à moi. Il n'y a pas de nécessité en effet d'avoir la marque. Pour enregistrer un nom de domaine. Je peux, moi, et moi, à titre personnel, hein, j'ai au nom de Michael Vigreux, personne physique, je suis titulaire d'un paquet de noms de domaine. Je dois en avoir une dizaine à titre personnel. Donc, non, je n'ai pas de marque, mais j'enregistre. Ça veut dire que si j'ai une idée un jour de nom de marque qui me plaît vraiment bien, je peux l'enregistrer. Alors, si je l'ai, mes concurrents peuvent l'avoir aussi. Je peux également avoir un concurrent malveillant qui enregistre mon nom. J'ai déjà vu ça. Deux jardineries qui se faisaient enfin, qui étaient en concurrence dans la même ville. Alors, je tairai les noms, mais il y en a une des deux qui a enregistré le nom de l'autre pour faire une redirection vers son propre site. Alors, bien évidemment, c'est interdit, hein, qu'on se le dise, hein. Mais en tout cas, le préjudice est fait. Alors, il y a eu, pour répondre à Mérieux, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, sur l'exigence, oui, en fait, par le passé, enfin, dans le passé, mais quand je dis le passé, c'était avant 2012, je crois, il y avait un, ou même avant, je crois que c'est 2008, mais j'étais pas né. En fait, avant, on avait le droit à un nom de domaine. Par cabis. Il fallait présenter son cabis et c'était uniquement le nom qui était écrit sur le cabis. On pouvait dire, ah oui, mais c'est super pour les entreprises, ça protège, c'est génial. Oui. Vous savez ce qu'ont fait les entrepreneurs? Savez ce qu'ont fait les entrepreneurs? Ben, ils ont tous enregistré du .com. Et donc aujourd'hui, en France, on est à 4 millions de .fr. Youhou! En Allemagne, 18 millions de .de. Alors, en France, on est un des seuls pays d'Europe où les entreprises enregistré majoritairement du .com que du .fr. Et d'un point de vue de souveraineté numérique, d'un point de vue d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, puisque le .com, je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'extension nationale des États-Unis. Le .fr, c'est l'extension nationale de la France. C'est une erreur de tout miser sur le .com. Alors, il y a une question peut-être que, d'ailleurs, vous n'avez pas osé me poser, mais ne soyez pas timide, hein. Je vais me la poser. Michael, t'es sympa, c'est cool. Bon, tu bosses pour le .fr, donc tu vas nous dire, enregistre du .fr, forcément, c'est ton produit, donc là, tu es en train de nous vendre ton produit. Bon, oui, déjà. Et en fait, moi, je vais juste vous poser. Je suis également chef d'entreprise, donc je me donne cette question à moi aussi. La bonne pratique, c'est peut-être d'enregistrer déjà les deux extensions, .com et .fr. Ça, c'est vraiment la base. Vous devez avoir les deux. S'il vous manque l'une des deux extensions, vous risquez, d'un point de vue cyber, d'avoir un petit malin à l'autre bout du monde qui enregistre le .com. Alors là, c'est la jungle, il n'y a pas de règle. Vous risquez d'avoir ça. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il vous contacte en disant, Michael, j'ai enregistré le nom de ton entreprise, là, je l'ai récupéré, donc j'ai michaelvigreux.com. Allez, je te le vends pour 40 000 dollars, je le fais en prix d'ami. 40 000 dollars, il a 10 euros ou 15 euros à l'enregistrement. Donc je vais dire, bah non, 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 c'est du chantage, non, non. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un site, je sais pas, moi, au hasard, un site pornographique, un site de contrefaçon, un site de propagande, je sais pas moi, djihadiste par exemple. Sincèrement, vous avez vraiment envie que votre marque soit liée, enfin, et cette image. Je crois qu'il fut un temps, il me semble que France3.com était un site porno. Voilà, on est dans la cyber, hein, on appelle ça du cyber squatting. C'est vraiment malveillant. Donc, la règle, quand vous avez une idée de business, quand vous avez une idée de marque, vous enregistrez tout de suite le nom. On n'a pas besoin d'attendre de déposer un cabis, d'enregistrer un site. Non, non, non. Alors, si vous êtes une entreprise, hop, vous enregistrez tout de suite le nom de l'entreprise. Et voilà. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat. Ouais. Vas-y.
Si je peux me permettre, on a fait une étude il y a 2 ans sur la perception que les gens avaient de l'adresse Internet. Donc, sans surprise, beaucoup de gens regardent, malgré tout, aujourd'hui, de plus en plus l'adresse Internet qui s'affiche en haut de le nom de domaine. Et l'extension est un critère de confiance. Et aujourd'hui, 68% des personnes sondées faisaient beaucoup plus confiance à une adresse avec un .fr qu'avec une autre extension.
Ouais, c'est tout bête.
Pour une transaction commerciale, je précise.
Bien sûr. Quand vous voyez en tant que, faut se mettre dans la peau de l'internaute. Voilà. Si je reviens et là on va faire un peu de marketing. Je suis entrepreneur. Je vends des produits en ligne. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va donner confiance à mes clients pour qu'ils mettent leur code de carte bleue sur mon site internet ou qu'ils prennent rendez-vous avec moi ou qu'ils fassent une demande de devis. La question, elle est là. Quand c'est écrit.fr, c'est vraiment bête, hein, et on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Et vous allez me dire, c'est que de la com et que du marketing. Oui, mais quand même, quand on voit un .fr, on va se dire, bah, tiens, ce site, il est en français, il s'adresse aux Français, c'est peut-être une entreprise française, il y a peut-être des normes françaises, il y a peut-être un service client, il y a des gens avec qui je pourrais communiquer. Et en fait, c'est tout cet imaginaire qui compte. Alors ça, c'est d'un point de vue marketing. Maintenant, d'un point de vue référencement, ça compte aussi. Quand j'enregistre un nom de domaine et que je place mon site en .fr, je dis à Google, ce site s'adresse aux Français, donc tu me le mets sur la partie Google France. Et Google va privilégier, il n'y a aucun paramètre de fait, mais de base, par défaut, Google va dire, ce site, je le mets sur la partie France de mon moteur de recherche. Je vous donne un autre exemple, le .co, T-O. Le point co, en fait, on se dit, oh, bah, tiens, doit être un diminutif du point com. Le point co, c'est l'extension nationale de la Colombie. Donc, Google, par défaut, va le mettre sur la partie espagnole de son moteur de recherche. Alors, tous les 2 lettres, ce sont des pays. Hein. Le point TV, par exemple, c'est les îles Tuvalu. Le point ME, mi, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Le point ME, c'est le Monténégro. Et le point in, ce n'est pas être à la mode, c'est juste l'Inde. Alors, ça a un autre impact, c'est qu'en cas de litige entre le titulaire du nom de domaine et quelqu'un qui veut le récupérer, eh bien, le tribunal se situe dans le pays. C'est-à-dire que si je prends un point com, eh bien, vous irez à Washington défendre votre cas face à un autre entrepreneur. Si vous êtes en point fr, bah, ça sera à Versailles. C'est peut-être plus facile pour défendre ses droits quand on est français. Et si je suis sur un point IN, j'irai en Inde. Je vois qu'il y a des questions très intéressantes. Ouais. Où enregistrer le point com? Chez un hébergeur, chez un bureau d'enregistrement, comme pour le point fr. Vous ne pouvez pas enregistrer directement votre nom à la FNIC. Vous êtes obligé de passer par un bureau d'enregistrement. Ça, c'est la règle pour toutes les extensions. Est-ce qu'il est préférable de mettre en point fr plutôt que le point com? Je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui, je trouve, est très intelligente sur le sujet. Cette entreprise, on est tous clients de cette entreprise. J'en suis sûr et certain, vous avez déjà acheté chez eux. C'est une entreprise norvégienne qui s'appelle Schibsted. Ils sont arrivés en 2012 en France. Non, en 2006 en France. Ils sont arrivés en 2006 et ils se sont dit, bon, les gars, on va pas prendre Schibsted.com parce que Schibsted.com, alors déjà que les Français ont du mal avec les langues étrangères, mais alors Schibsted, je suis pas sûr qu'ils soient capables de l'écrire. Ils se sont dit, mais pour lancer notre place de marché, on va prendre un nom bien français. Allez, on va s'appeler Le Bon Coin. Et donc, Le Bon Coin, c'est la société norvégienne Schibsted. Et vous voyez, pour ceux qui viennent dire, ouais, mais moi, je fais de l'export, etc. Ouais, bah, faites comme Schibsted, vous prenez le nom de domaine du pays. Donc, Le Bon Coin, .fr, leboncoin.com. Une question? Non? Leboncoin.com, ça parle au français peut-être, mais ça ne va pas parler au portugais, à l'espagnol, à l'italien, à l'allemand, à l'anglais. Alors que leboncoin.fr, ça parle très bien au français, subito.it, ça parle super bien l'italien. Tutti.ch, ça va parler aux Suisses, etc., etc. Donc, j'en fais une déclinaison du site traduit avec le nom de domaine du pays. Alors, ça fait du boulot en plus, je vous l'accorde. Mais d'un point de vue marketing, d'un point de vue référencement, d'un point de vue cyber, elle se protège dans tous les cas. Le point EU, pour répondre à Frédéric, c'est la Commission européenne.
Google et Amazon sont en France, sont en .fr.
C'est QFD.
Et on a aussi une petite question sur le point .org également.
Oui. Alors, le point .org. Alors, oui, merci pour ces questions. Le point .org, c'est une société, alors c'est une association à but non lucratif qui s'appelle Public Internet Registry, une association américaine. Vous pouvez dire, bah ouais, mais moi, je suis une association, point .org, c'est pertinent. Alors, je peux comprendre. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai oublié de... Je vais vous rappeler sur l'AFNIC. Nous aussi, on est une association à but non lucratif. On fait du service public, puisque tous les 5 ans, on répond à un appel d'offres pour pouvoir continuer notre mission de gestion des noms de domaine en .fr. Et on s'est engagé vis-à-vis de l'État à reverser 1 300 000 euros par an. Alors, je réfléchis parce que ça a changé cette année. Avant, on reversait 90% de nos bénéfices à une fondation pour le développement de l'Internet solidaire en France. Voilà. Donc, quand vous investissez dans, quand vous prenez un point .fr, non seulement vous capitalisez sur la marque .fr, et en plus, ça permet, vous savez que votre argent retourne dans le marché français. Le point Paris appartient à la ville de Paris. C'est l'AFNIC qui en gère la gestion. C'est très pertinent, mais encore une fois, il faut avoir le point .fr et le point .com pour vous protéger avec. Question de Chiarelli. Est-ce qu'il est pertinent d'acheter un nom de domaine aux enchères? Je vais en parler juste après, je crois. Vas-y, si tu peux avancer un petit peu. Vas-y, comment l'enregistrer? Alors, je vais assez vite, mais voilà, je reviens dessus. Et vous devez passer absolument par un bureau d'enregistrement. Il y en a pléthore. Vous allez sur le site de l'AFNIC, vous avez un annuaire. Et voilà, ou sur réussissant.fr, vous avez une petite sélection. Une fois que vous l'avez, il est enregistré pour 1 an. Et donc, chaque année, il faut repayer. Sinon, le domaine retombe dans le domaine public. Et premier arrivé, premier servi. Allez, on avance. On va regagner un petit peu tard. Ouais, ou registrar. Ouais, c'est le registrar ou c'est la traduction anglaise de bureau d'enregistrement. Je crois que les Québécois disent même registraire. C'est très moche. Voilà, le point .fr. On va avancer parce que j'en ai déjà parlé en vérité. On va essayer de gagner un petit peu de temps pour la suite. Voilà. Et donc là, je vais répondre. Est-ce que il est pertinent d'acheter un nom de domaine si il est déjà pris? Donc le marché à l'occasion, c'est une vraie bonne idée. Alors, si vous vous y connaissez, pourquoi? Vous pouvez voir un superbe nom sur Cedo. Cedo, c'est une plateforme d'achat de nom de domaine d'occasion. Il y en a d'autres, mais c'est la plus connue. C'est des, je sais plus si ce sont, je crois que ce sont les Allemands qui gèrent ça. Cedo. Ce qui est important, c'est de se dire quel est. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture d'occasion. C'est quoi l'historique de ce nom de domaine? Au-delà juste du nom qui peut être très beau, qu'est-ce que j'ai sous le capot en fait, hein? Le moteur est dans quel état? Les amortisseurs, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez avoir un nom qui a été blacklisté par Google parce que son ancien titulaire s'amusait à faire du spam ou avait un site très malveillant. Alors ça, c'est le côté vraiment négatif. Donc, je pense qu'il faut se faire accompagner par un expert. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a même des plateformes françaises hein, qui, oui, voilà, ça existe. Je pense à Kif.dom. Je pense à Dom Expire. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors, je vous le mets, mais je vous le mets avec des pincettes. Dans le sens où il y a un truc sur lequel j'ai pas beaucoup insisté pendant la présentation et je vais revenir dessus. Si vous achetez un nom d'occasion ou si vous achetez un nom neuf, cela, comment dire, vous devez quand même vous assurer que vous avez un minimum de droits sur le nom. Je m'explique. Admettons que Coca-Cola.fr tombe dans le domaine public. N'enregistrez pas ce nom de domaine. Je peux vous assurer que vous le faites. Le lendemain, vous avez les avocats de Coca-Cola à votre porte. si vous prenez le nom d'une entreprise ou d'une marque qui existe encore et qui a laissé tomber son nom de domaine, c'est le business de Dom Expire ou de Kif Dom. Hein. Ils récupèrent tous les noms de domaine qui leur semblent intéressants. Ils ont des indicateurs pour voir, pour évaluer si ce sont des noms intéressants ou pas. Il y a des vraies pépites dedans. Il ne faut pas prendre si c'est une marque qui existe encore. Parce que si le titulaire de la marque vous attaque en disant hey, tu prends mon nom de domaine, enfin tu as pris le nom de domaine alors que j'ai une antériorité sur cette marque, vous êtes sûr de perdre le nom de domaine. Donc attention à ce que vous faites, vraiment. Hein. Ça existe. Je réponds à la question, mais vraiment, faites-le avec intelligence. Et si vous avez un avocat, demandez conseil. Voilà. Mais vous pouvez avoir des super pépites et typiquement dans ce qu'on appelle le growth marketing, vous savez, cette capacité à aller plus vite que la croissance et à trouver des trucs et astuces pour aller plus vite. Investir dans les noms de domaines expirés, donc qui ont été utilisés par d'autres entreprises pour les réexploiter sur son entreprise actuelle, c'est une super façon d'aller beaucoup plus vite que tous les autres. Et quand vous lancez un projet, pour être référencé plus vite sur Google, c'est une bonne façon de récupérer les noms de domaine. Je vous donne quelques exemples qui me viennent à l'esprit. J'ai nuitdebout.fr. Vous savez, nuitdebout, c'était ce mouvement. Et aujourd'hui, c'est un site de rencontre. Et je crois qu'il y a aussi les sites des politiques. En fait, souvent, ils abandonnent leur nom de domaine. Alors, les plus connus, je crois, c'est les plus grosses ventes. Je crois que ça a été Marine 2017 et Fillon 2017. Qui en fait, dites-vous que ils ont utilisé ces noms pour leur campagne en 2017, et puis les différents partis se sont dit bon, ça sert à rien de les garder, on les dégage, ce qui est une erreur. Et donc il y a des petits malins qui ont récupéré les noms de domaine, mais faut se dire qu'ils ont récupéré des grosses oranges et ils ont pressé tout le jus SEO, donc le référencement, pour ensuite lancer leur propre projet. Quel intérêt d'utiliser des noms communs plutôt qu'un nom de marque? Eh bien, le nom commun, ça permet de se placer sur un mot-clé. Alors, avant, ça marchait très bien. Aujourd'hui, c'est limite pénalisé par Google. Dans le jargon, ils appellent ça des exact match domaines. Exact match domaine, c'est un nom de domaine qui correspond exactement à une requête type qui est tapée sur Google. Sur les cours, ça marche pas très bien, mais sur les très longs, ça peut être pertinent. Mais là, on arrive vraiment sur des trucs beaucoup plus techniques. Donc voilà, on avance un petit peu.
Alors, eh bien, je vais prendre la parole.
Et voilà ce que je voulais dire, je te passe le relais, l'autre fille.
Oui. Donc, si tout le monde a épuisé les questions à Michael, et on pourra aussi revenir sur le sujet du nom de domaine et du dépôt de nom de domaine à la fin, là, maintenant, on va aborder le deuxième volet. Vous êtes convaincu du fait d'avoir un nom de domaine, de l'intérêt d'avoir pour vous un nom de domaine. Il y a .fr, vous avez compris que c'est quand même un atout en termes de positionnement marketing sur le marché français. Maintenant, il va falloir le protéger. En fait, il y a deux types de risques auxquels votre nom de domaine est exposé une fois qu'il est à vous. Comme vient de le dire Michael, votre nom de domaine, si vous ne l'avez pas renouvelé, il peut être enregistré par un tiers. Ça, c'est le premier risque que l'on peut avoir. Les exemples qui ont été donnés par rapport au candidat de la présidentielle de 2017, c'est typiquement un désavantage et un risque parce qu'on peut communiquer en utilisant votre identité. Et la deuxième, vous êtes toujours titulaire de votre nom de domaine, propriétaire de ce nom de domaine, vous le renouvelez proprement, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour le préserver et le sécuriser. Et c'est un peu le but de cette présentation, là maintenant, qui va se poursuivre. C'est en fait, on va voir par la suite quel type de risque cela amène, c'est de faille. En fait, si vous ne faites pas ça, tout simplement, si quelqu'un prend votre nom de domaine, comme il l'a dit Michael, le trafic a été repris. Le trafic des candidats à la présidentielle a été repris. S'il y a du trafic sur votre web et que vous avez oublié qu'il y a une activité, ça veut dire que ce trafic va aller chez quelqu'un d'autre. Ça peut être du chiffre d'affaires en moins, c'est de l'image de marque pénaliser si quelqu'un utilise, on a vu ça souvent ces derniers temps, des sites de commerce en ligne provenant de pays d'Asie qui commercialisent des baskets et du vestimentaire de mode avec des noms de domaine qui n'ont rien à voir, qui sont typiquement les vôtres, mais qui du coup récupèrent du trafic, récupèrent du référencement et sont positionnés haut dans les moteurs de recherche. Donc là, on a affaire clairement pour vous à une dégradation d'image de marque. Quand on tombe sur votre site et qu'on voit des baskets alors que vous êtes notaire, avocat, que vous avez un réseau de salons de coiffure, et ben c'est, d'un seul coup, l'image qui est renvoyée de vous peut être assez désastreuse. Donc ça, c'est le point. Donc on détourne votre trafic et on dégrade votre image de marque. On usurpe votre identité, on peut se faire passer pour vous et vendre des produits comparables aux vôtres à votre place. On peut vous rançonner. On peut vous dire, ben, votre nom de domaine, ça y est, c'est moi qui l'ai, ben, combien tu me payes pour l'avoir? Et parfois, malheureusement, ça peut être plus intéressant de payer une rançon que de se lancer dans des longues procédures pour récupérer juridiquement, avec des bonnes bases juridiques, le nom de domaine. Donc, en sachant que là, c'est pas soit du détournement de trafic, soit du rançonnage. C'est globalement, quand quelqu'un prend votre nom de domaine, c'est à peu près tout ça qui arrive à la fois. Donc voilà, vous pouvez devoir payer votre nom de domaine, le hameçonnage. Votre nom de domaine peut être utilisé, et ça on le voit très souvent, peut être utilisé pour hameçonner vos clients ou des gens que vous ne connaissez pas. Donc là, vous avez, ça s'ajoute, voilà. Et puis ensuite, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on vous vole vos données. Ça, c'est si vous oubliez de renouveler votre nom de domaine. Non, ça vous arrivera pas. Mais par exemple, si quelqu'un prend le contrôle de votre nom de domaine, et on va voir que ça peut arriver. Et que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, eh bien, d'un seul coup, vos données, vos historiques de données sont à la disposition de la personne qui s'est emparée de votre nom de domaine. Ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu peut-être une question que je vais vous poser, et vous n'hésitez pas à répondre dans le chat, qui d'entre vous sait, qui d'entre vous gère directement son nom de domaine ou sait à qui il l'a donné et peut récupérer facilement des informations concernant son nom de domaine? C'est-à-dire qui sait me dire s'il a mis les bonnes informations de titulaire, s'il est titulaire, s'il sait qui est son bureau d'enregistrement? C'est une question que l'on pose souvent dans des ateliers que l'on mène avec Michael qui s'appelle « Tous en ligne maintenant ». Et c'est souvent une question où on a été au début assez surpris de la réponse. Le nombre de personnes qui finalement n'ont pas de maîtrise directe de leur nom de domaine, qui le confient à un prestataire et en perdent la visibilité. Ils savent qu'il est renouvelé, ils savent qu'il est géré, administré, que de temps en temps il y a des mises à jour qui sont faites, mais ils n'en savent pas plus. Donc ça, c'est typiquement un problème. Vous êtes exposé.
On a par exemple, moi c'est Orange qui l'a fait pour moi, géré en interne via Gandhi. Comment reprendre la main justement quand on l'a pas?
Eh bien, en vous informant. Déjà en vous informant, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'Orange le gère. C'est pas une mauvaise chose et que Gandhi le gère, c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que vous devez savoir qui le gère. Vous devez savoir ce qu'Orange fait sur ce nom de domaine. Et vous devez avoir un contact, soit un contact technique. Vous devez pouvoir adresser, vous devez vous connecter à une interface d'enregistrement et gérer votre nom de domaine, éventuellement lui rajouter des sécurités. Ça, c'est fondamental. Et si votre bureau d'enregistrement ne vous propose pas cette interface, vous devez avoir un point de contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone pour pouvoir lui dire éventuellement, bah, rajoute-moi un nouveau nom de domaine. Là, je viens de suivre une conférence et Michael Vigreux vient de me convaincre que je devais rajouter mon extension au produit que je t'ai acheté, bah, à peu près le même avec mon nom de domaine avec un accent. Rajoute-moi ce nom de domaine. Bah, vous devez pouvoir le demander facilement, soit via une interface internet, soit via un contact au niveau du bureau d'enregistrement. C'est fondamental. Vous devez avoir un interlocuteur et vous devez être maître de votre nom de domaine et de toute votre présence en ligne. Donc, et le fait que ce soit laissé à la gestion d'un interlocuteur qui s'en occupe, mais vous savez pas comment, ben c'est généralement le premier point d'entrée, le premier problème qui amène à tout ce qu'on vient de décrire auparavant. Alors, Orange est un bureau d'enregistrement, fiable, hein, et avec lequel on travaille depuis le début à la FNIC. Donc, en soi, c'est pas un problème d'avoir Orange. Ce qu'il faut par contre, c'est que vous ayez vos accès vers votre compte bureau d'enregistrement d'Orange, que vous puissiez y accéder régulièrement, que vous ayez un mot de passe, que le mot de passe suive un certain nombre de règles, et ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais ce compte qui vous permet d'accéder vers le bureau, vers les données du bureau d'enregistrement et sur la manière dont vous pouvez faire évoluer, rajouter des extensions de sécurité à votre nom de domaine, ça vous devez en avoir la maîtrise. Si demain vous déménagez, vous devez être en mesure de modifier vous-même les données les données de votre associées à votre nom de domaine chez votre bureau d'enregistrement. Il faut savoir que c'est une obligation pour les noms de domaine en .fr. Il faut mettre à jour vos données. Vous devez être un contact titulaire. Vous devez avoir des données à jour en tant que contact titulaire. Et c'est souvent ce manque d'information du titulaire, c'est-à-dire vous, sur ces accès, qui est le premier point de faiblesse en fait aujourd'hui, et le premier point d'entrée pour des pertes de nom de domaine, pour des non-renouvellements et pour des attaques par la suite. Il faut savoir qu'une des raisons de perte de nom de domaine, c'est tout simplement l'oubli de la mise à jour de mise à jour du moyen de paiement. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. Là. Le WHOIS, en effet, WHOIS, c'est un mot barbare. WHOIS, c'est votre fiche d'identité sur le web. C'est la fiche d'identité de votre nom de domaine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux outils hein, que vous devez maîtriser. C'est le WHOIS, ce qu'il y a dans le WHOIS, et votre interface bureau d'enregistrement. On va avancer, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Le WHOIS, c'est la fiche d'identité de votre nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine à la FNIC, on a fait simple. Vous tapez www.whois.fr. Et là, vous tombez sur cette page. Et vous tapez sur votre nom, là où il y a écrit votre nom de domaine. Vous tapez votre nom de domaine et vous pourrez avoir ici, donc je ne sais pas si vous voyez ma flèche, vous pourrez avoir ici toutes les données d'identité de votre nom de domaine et savoir notamment si vos données sont à jour, si vous avez votre identité est écrite correctement, si vos données de titulaire sont écrites correctement. Vous pouvez aussi avoir fait le choix d'avoir finalement d'anonymiser ces informations. C'est pas un problème, vous pouvez l'anonymiser. Par contre, assurez-vous qu'auprès de votre bureau d'enregistrement, vos données de facturation, vos données de contact sont propres, sont à jour. Alors, je pense que si vous tapez votre nom de domaine.fr, vous allez voir un peu ces données de contact qui vont apparaître, votre adresse, le contact technique. Et les différents niveaux de contact qui apparaissent, je vous invite à le faire. Et dans ce WHOIS, un point qu'on ne visualise pas ici et qui est très important, c'est que vous avez également le contact technique. Le contact technique, c'est justement très souvent le bureau d'enregistrement. À moins que vous ayez une entreprise qui ait une direction de l'informatique qui ait géré cet aspect-là et qui se soit positionné en contact technique. Alors, 5 conseils clés en main pour sécuriser votre nom de domaine. Maintenant qu'on a posé la base, conseil numéro 1, gardez la maîtrise de votre nom de domaine, c'est ce que je vous ai dit tout de suite. Dans le WHOIS, vous devez être indiqué comme titulaire. Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour et votre prestataire, vous êtes tout à fait en droit d'avoir un prestataire. Si c'est votre agence marketing qui gère ça, si vous avez un informaticien génial qui vous règle tous vos problèmes, très bien, c'est une bonne chose, une bonne pratique, mais il faut qu'il soit contact technique et vous êtes indiqué comme titulaire. Et même si votre prestataire est génial et qui gère ça facilement pour vous, vous devez garder la possibilité de vous connecter vous-même à votre interface bureau d'enregistrement ou de contacter vous-même le bureau d'enregistrement. Vous ne savez pas ce que deviendra votre prestataire demain. Voilà, la présentation était passée par le filtre de la communication chez nous, donc c'était ce que je voulais vous montrer à travers le WHOIS. Et du coup, quand vous tapez afnic.fr, vous voyez exactement ce qui se passe. On a afnic.fr, vous voyez le bureau d'enregistrement, donc là c'est notre, nous, l'AFNIC, on a un propre registre, bureau d'enregistrement, mais là vous devez avoir, donc si vous tapez votre nom de domaine, Marie, donc c'est Regard Expert, si je me souviens, si ma mémoire est bonne. Donc, et vous avez dit que c'était Orange. Donc là, vous devez avoir Orange qui apparaît. Vous devez avoir la date de la première création, du premier jour où vous l'avez créé. et du moment où il a expiré. Ensuite, vous avez des informations techniques. C'est normal que vous ne sachiez pas les lire. En soi, là, on ne vous demande plus d'être compétent. C'est mieux si vous devez comprendre. DNS, tout à l'heure, il vous l'a dit, Michael, c'est qu'on est à la fois notaire et on est aussi un peu service postal. C'est-à-dire que c'est nous qui acheminons vos requêtes. C'est nos services DNS qui acheminent vos requêtes et c'est des serveurs NS. C'est ce qu'on va retrouver dans les serveurs NS. Vos bureaux d'enregistrement aussi sont des relais, ont leur propre serveur NS. Ils sont des relais un peu dans cette toile que l'on a mis en place et qui font que, comme à l'époque des diligences, votre message, il est mis dans une diligence et acheminé dans un réseau avec des routes à suivre. Et si jamais la route, il y a un ébouli au milieu et qu'il peut pas passer, il sait comment contourner pour arriver à la ville où vous avez adressé et donc faire que la requête, l'email, le nom de votre site web va apparaître quoi qu'il arrive chez la personne qui attend votre mail ou qui s'apprête à vous passer une commande. Donc ça, un peu, les NS, c'est ça. Vous n'avez pas à le connaître, mais votre interlocuteur technique, si vous l'avez, lui, doit s'y connaître un minimum. Et votre bureau d'enregistrement, il n'y a pas de souci, ils s'y connaissent, c'est leur cœur de métier. Ensuite, vous avez les différents niveaux de contact. Et ça, c'est vraiment des données à maintenir à jour. Vous n'avez pas de souci à vous faire si vous êtes chez un bureau d'enregistrement du marché reconnu. Le contact technique, c'est souvent eux. Le contact administratif, c'est souvent vous. Le titulaire, c'est vous. Et le contact technique, c'est votre bureau d'enregistrement, donc comme on l'a dit. Ces données, à l'exception du contact technique, chez votre bureau d'enregistrement, si vous ne souhaitez pas qu'elles soient publiques, elles peuvent être anonymisées.
Une petite question sur DNSSEC.
On va y arriver, dites donc, vous êtes en avance.
Moi, j'ai une question peut-être du coup avant. Si je fais appel à un prestataire, c'est lui qui gère tout, et que je m'en suis pas occupé pendant plusieurs années, mon prestataire, je perds contact, il a fermé The Boutique. Quels sont les moyens à ma disposition pour que je puisse récupérer les informations?
Entrez en contact avec votre bureau d'enregistrement. Si le nom de domaine est encore enregistré à votre nom, il saura vous redonner les accès et les informations qu'il vous faut. Bien sûr, il vous demandera des données administratives, cabis et autres, mais entrez en contact avec votre bureau d'enregistrement dans ce cas-là.
Et si c'est pas à mon nom?
Alors, dans ce cas-là, il faut que vous retrouviez la personne qui l'a enregistré et que vous fassiez un transfert. C'est-à-dire que la personne qui l'a enregistré à son nom, vous le revende. Parce que du coup, il est propriétaire du nom de domaine, il est titulaire et ce n'est pas vous. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on déconseille vivement. Vous devez être titulaire de votre nom de domaine, même si la gestion de ce nom de domaine est confiée à un prestataire. C'est vous le titulaire et votre prestataire ne peut être au mieux que contact technique, comme vous le voyez en bas. Organisez au plus vite, si vous n'êtes pas le titulaire du nom de domaine et que c'est votre prestataire qui l'est, organisez très vite le transfert de ce nom de domaine. C'est une opération qui va vous coûter le prix du rachat d'un nom de domaine.
Ouais, ça c'est hyper important parce que même si le prestataire disparaît pas, on peut toujours avoir des petites tensions dans les négociations commerciales, etc. Et il faut toujours rester propriétaire de son nom de domaine parce que ça peut partir en petit chantage ou en
complètement. Je pense qu'en fait, même si on a affaire à des personnes souvent très compétentes et qui pour être honnête, moi, j'ai jamais croisé de problème entre des entreprises qui avaient confié ça à des prestataires. Le plus gros problème que j'ai croisé, c'est finalement la perte d'informations en route. C'est-à-dire que le prestataire est souvent intervenu à un moment où il y avait un rush, où il fallait déployer le système informatique de l'entreprise. Il a fait ça en même temps qu'il a fallu mettre en place un système logistique. Par exemple, j'ai vu ça dans la distribution de chaussures. Un système logistique pour la distribution de chaussures, avec ça une boutique en ligne. Et puis sur la boutique en ligne, on a plugué l'achat d'un nom de domaine. C'est lui qui a piloté la mise en place du premier système d'information. Puis la boîte a grossi. On a géré le système logistique. On a changé le système logistique. On s'est pas occupé de la boutique en ligne, qui finalement ne se développait pas commercialement. C'était pas forcément une bonne idée. Donc, chacun des projets a évolué dans son coin. Puis, le jour où on a voulu relancer une boutique en ligne, d'un seul coup, le prestataire en question n'était plus là. Il était parti à la retraite. Et Et voilà, le contact s'était perdu, et même et surtout le prestataire lui-même, par éthique, faisait renouveler le nom de domaine, mais il s'en occupait plus vraiment. C'était hors de son, il n'y consacrait plus de neurones, on peut dire. Et voilà, donc du coup, même pour le prestataire, ça a été très compliqué de retrouver les informations et d'organiser proprement le transfert, parce que là, en plus, il a fallu organiser le transfert des développements web qui avaient été faits. Donc voilà, donc c'est un peu, finalement, ça, c'est une recommandation que vous devez avoir, hein, si vous avez une entreprise qui a plusieurs salariés et qui commence à se développer et qui commence à rationaliser son informatique. Finalement, là-dessus, le nom de domaine obéit à finalement toutes les autres règles de rationalisation de l'informatique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez avoir le contrôle de vos ressources et le nom de domaine et votre et les compétences associées à ça doivent rester sous votre contrôle. Deuxième conseil, donc vraiment le premier conseil, c'est vous la référence du nom de domaine. Vous êtes le titulaire du nom de domaine, c'est pas votre agence, c'est pas votre prestataire. Sécurisez l'accès à votre nom de domaine. Là, on va parler des règles de base. Mais j'aimerais bien vous dire que les règles de base, elles sont respectées. Malheureusement, non, y compris chez des grands comptes. Donc on le voit. Vous devez avoir un mot de passe unique et robuste. Ça, c'est fondamental. Si vous êtes chez Orange, donc on a eu Orange et Gandhi. Je crois qu'à l'Académie du MEDEF, vous êtes chez Gandhi, oui. Il me semble. Donc l'Académie MEDEF.fr est chez Gandhi. Donc, et là, typiquement, voilà, quand vous, Gandhi, OVH, Orange, vous offre la possibilité de gérer vous-même votre nom de domaine. Là, ayez un mot de passe unique et robuste. Donc, si vous avez des outils de gestionnaire de mots de passe, très bien. Si vous avez vous-même, vous gérez vos mots de passe et choisissez le long avec les règles qui deviennent aujourd'hui de plus en plus généralisées sur le choix des mots de passe, donc notamment la phrase de passe plutôt que le mot de passe, voilà, et la double authentification, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous connectez sur votre interface bureau d'enregistrement, que vous allez administrer votre nom de domaine, que vous allez éventuellement renouveler votre nom de domaine, le transférer, le supprimer, lui rajouter DNSSEC, puisqu'on m'a posé une question sur DNSSEC et que je vais revenir dessus. À chaque fois que vous faites ça, assurez-vous qu'avant d'entrer pour faire ça, vous ayez un système de double authentification, c'est-à-dire que vous recevez un SMS pour confirmer que c'est bien vous qui êtes en train de vous connecter. Donc ça, c'est fondamental. J'ai beau travailler à la FNIC, je dois vous avouer assez humblement que je me suis déjà fait pirater mon interface bureau d'enregistrement chez OVH. Donc c'est quelque chose de très fréquent. Donc c'était un nom de domaine personnel, je n'avais qu'un nom de domaine, mais voilà, on a beau être informé, et le problème c'est que mon mot de passe n'était pas assez robuste. Donc voilà, donc implémenter un système de double authentification avec un mot de passe unique et robuste. Point important, limiter le nombre de personnes ayant accès à la gestion du nom de domaine. Donc là encore, je reviens sur le prestataire parti à la retraite. Typiquement, c'est quelqu'un qui ne doit plus avoir accès à votre compte. Donc du coup, identifier la liste des personnes autorisées. Si vous êtes une petite société, que vous avez un service informatique de 2-3 personnes, ben, limitez l'accès à votre interface bureau d'enregistrement aux personnes qui sont dans ce service. Peut-être si vous avez un département juridique à côté, une personne aussi au juridique, mais voilà, un nombre de personnes limité. Sensibilisez aussi vos équipes au risque du ce qu'on appelle social engineering, qui est l'écriture de vente. On dit stratégie des cybercriminels consistant à manipuler par la persuasion. Tout bêtement, les compétences de copywriting que vous avez probablement, que vous avez côtoyé dans le cadre de votre développement marketing, d'écriture publicitaire. Les criminels l'utilisent aussi. Les cybercriminels l'utilisent pour vous convaincre qu'ils sont pour créer une situation dans laquelle ils vont vous convaincre que vous faites quelque chose d'anodin et que vous êtes en train de remplir vous êtes en train de renouveler le mot de passe de votre interface bureau d'enregistrement. Donc ça, c'est quelque chose qui, il y a eu une campagne en 2014 et une autre en 2017 d'emailing visant un très grand nombre de personnes où vous aviez vraiment l'impression qu'OVH, que d'autres bureaux d'enregistrement, vous demandaient de renouveler votre mot de passe qui avait eu une faille de sécurité. Il était très, très bien écrit. Encore une fois, pour 80% de ces mails, ils ne marchent pas, mais supposez que vous êtes chez ce bureau d'enregistrement qui vous envoie, que c'est un faux mail. Vous n'avez pas de raison de ne pas croire, en fait. S'il est très bien écrit, s'il a la même forme, s'il n'y a aucune faute, si la situation est crédible, donc du coup, vous êtes tenté d'y aller. Donc là, il faut sensibiliser vos équipes à ces risques-là. Au fait que notamment aucun bureau d'enregistrement ne vous sollicitera pour demander le renouvellement de votre mot de passe via email. Donc ça, c'est un point important. Si jamais une telle problématique venait à se poser, ce serait plutôt une campagne d'information et les choses se passeraient une fois que vous êtes sur l'interface BE, une fois que vous avez validé votre accès via l'identifiant, le mot de passe et la double authentification. Est-ce que j'ai des questions?
Il y a des questions, mais Mickaël répond, ça permet d'avancer, puis voilà.
Nicolas, un petit peu plus haut, qui demandait quelque chose sur les phrases de passe, peut-être des précisions.
Par exemple, si vous dites une phrase de passe, j'ai passé mes premières vacances à Soulac en 1999, ce sera et que vous dites en 1999 vous mettez un arrobase pour dire dans votre tête vous intégrez le fait que le en est un arrobase où j'ai passé mes premières vacances égale Soulac arrobase 1999, bah du coup vous avez un mot de passe extrêmement robuste.
J'ai une autre astuce. Et si vous voulez bien, il y a un petit logiciel qui est recommandé par Cybermalveillance qui s'appelle KeePass. C'est un logiciel gratuit et qui génère et enregistre pour vous des mots de passe. Il va générer des mots de passe du type 3K, P majuscule, arrobase 18027B. Il gère tous les mots de passe pour vous. C'est très intuitif. Voilà, c'est ce que je fais moi personnellement.
Oui, complètement. C'est un excellent outil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, a priori. Ouais.
Conseil numéro 3. Quand vous enregistrez un nom de domaine, pensez au long terme. Un nom de domaine, par défaut, vous l'enregistrez pour un an. Donc, c'est une bonne stratégie parce que vous n'avez pas forcément besoin de tous vos noms de domaine. Parfois, vous avez une campagne juste qui va durer un an et vous n'avez pas de raison de garder un nom de domaine plus d'un an. Par contre, si c'est votre nom de domaine institutionnel et que vous êtes plutôt confiant sur l'avenir de votre entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans. Donc, ne vous en privez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'AFNIC, au niveau du registre AFNIC pour les noms de domaine en .fr, tout bureau d'enregistrement est censé vous proposer un enregistrement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Donc là, on a une interface d'un bureau d'enregistrement. Vous voyez, un an, 12 euros, et ainsi de suite, jusqu'à 10 ans. Donc, optez pour le long terme, de préférence. Si, surtout, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure, c'est un nom de domaine, c'est pas très cher. Donc, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Ensuite, vous avez la plupart des bureaux d'enregistrement vous proposent aussi le renouvellement automatique pour éviter que quelqu'un ne l'enregistre après son expiration. Donc ça aussi, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le en gardant en tête que votre moyen de paiement doit être à jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc cette recommandation renforce la recommandation précédente qui était de garder le contact, de garder le contrôle sur votre interface bureau d'enregistrement et sur le fait de mettre à jour vous-même vos données de paiement au moment où elles expirent. Conseil 4. Utilisez les services et protocoles sécuritaires adéquats. Donc, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure, on est à la fois registre notaire pour l'enregistrement des noms de domaine et pour cette fonction de registre et des noms de domaine, la particularité de l'Internet, c'est que c'est un système ouvert. C'est ce qui a permis son développement. Donc du coup, malheureusement, le fait d'un système ouvert, c'est qu'en fait, quelqu'un peut aussi s'emparer de votre nom de domaine. Et si votre bureau d'enregistrement n'a pas développé tous les outils nécessaires, et notamment celui du lock du registre, eh bien quelqu'un peut transférer votre nom de domaine avec en se faisant passer pour vous. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs verrous qui sont mis en place, notamment dans le cas d'un transfert. La plupart des bureaux d'enregistrement imposent la double authentification. Eh bien, sur cette double authentification, je vais commencer par le bas, c'est pour le .fr, elle s'appelle FRLock. Donc, c'est un service de verrouillage du nom de domaine qui vous permet d'éviter que quelqu'un vous le prenne, que quelqu'un le transfère à son profit. Donc ça, c'est une recommandation forte, activez FRLock. Et assurez-vous que votre bureau d'enregistrement vous propose FRLock. Donc aujourd'hui, ça, ce point est important. L'autre point, l'autre extension de sécurité que l'on recommande, la plupart des BE aujourd'hui la proposent, donc allez-y, c'est DNSSEC. C'est un protocole qui permet aujourd'hui à... quelqu'un peut aller sur votre extension et finalement vous avez l'impression d'avoir le contrôle de votre extension, mais à l'arrière-plan il y a toute une série d'adresses IP, d'adresses SMTP pour l'emailing qui sont renseignées par défaut par votre bureau d'enregistrement ou par votre ingénieur en informatique qui s'occupe de votre DNS, de ce qu'on appelle le DNS. Eh bien, quelqu'un peut prendre le contrôle de ces informations DNS et détourner votre trafic. Alors, si vous voulez que ça ne vous arrive pas, activez l'extension DNSSEC. Ça, ce sont deux options et typiquement, les grands BE français les proposent. Donc, on vous recommande de les activer, c'est disponible. Souvent, ils ne les font pas payer. Donc, certains ne les font pas payer, donc profitez-en. FRLock est payant, quoi qu'il arrive, mais DNSSEC ne l'est pas. Donc profitez de ces extensions de sécurité qui vont faire, un, pour DNSSEC, qu'on ne détourne pas votre trafic, et pour FRLock, le fait qu'on ne peut pas s'approprier votre nom de domaine à votre dépens. Cinquième conseil. Et c'est quelque chose qui monte, hein. C'est pas quelque chose. Je pense qu'il y a 5 ans, on se serait arrêté aux 4 conseils précédents, mais vous avez tous remarqué que aujourd'hui, la sollicitation par courriel et par courriel malveillant est devenue un très gros sujet. Je crois qu'on a tous à peu près reçu cet email là que je vous montre à l'écran, avec des expéditeurs différents. Ici, comme vous voyez, la personne qui l'a reçu. Elle a eu la surprise de réaliser que l'expéditeur c'était elle-même. Et surtout là, on n'a pas répondre. Ah, d'habitude, il arrive que on ait un nom un peu étrange dans le champ 2, et dans la réponse, vous répondez à un nom de domaine qui est différent de celui qu'il y a dans 2. Donc c'est. Mais là, ici, on a vraiment un expéditeur qui est vous-même et surtout qui semble venir d'une extension de confiance. Là, ici, on a affaire à un organisme en Suisse d'enseignement supérieur et donc, du coup, là, c'est heureusement le copywriting, là encore, de l'email, c'était un hameçonnage qui demandait, c'était un chantage à la vidéo, pardon, qui demandait un paiement. Du coup, imaginez qu'à la place de ce texte, vous ayez quelqu'un qui a l'air de vous envoyer, qui a l'air d'être un collègue et qui a l'air de vous demander des données sensibles ou des informations de paiement. Donc, d'un seul coup, le nom de domaine en haut est fiable. En fait, c'est encore une fois, pour FRLock, qu'on vous l'a dit, c'est un système ouvert qui a été pensé, l'Internet et le DNS sont des systèmes ouverts qui ont été pensés pour favoriser la résilience du système et la maniabilité des noms de domaine, des opérations de transfert, des opérations de renouvellement, de suppression des noms de domaine. Mais du coup, elles ont cette faiblesse, c'est que finalement, on peut se faire passer pour vous. Alors aujourd'hui, ces trois conseils qu'on va vous donner, ces trois protocoles d'authentification de l'émetteur basés sur le DNS, donc basés sur le domaine, Votre bureau d'enregistrement, le fait de choisir un bureau d'enregistrement de référence vous permettra déjà de couvrir les deux premières cases. Aujourd'hui, SPF est couvert par à peu près 90% des noms de domaine en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique qui permet d'autoriser une liste d'adresses IP émettrices, c'est-à-dire qui s'assure que l'adresse IP émettrice est bien la vôtre. Donc ça, aujourd'hui, si vous avez fait un bon choix de BE, ce protocole est déjà implémenté et vous n'avez pas à vous en soucier. Par contre, concernant DKIM, aujourd'hui, on tombe à 23-24%. Qu'est-ce que c'est DKIM ? DKIM, c'est une clé cryptographique qui permet d'assurer à la personne qui reçoit l'email que vous êtes bien l'émetteur de l'email. Et enfin, dernier protocole, c'est DMARC. DMARC permet à la personne qui reçoit les emails de rejeter les emails qui se font passer pour vous. Donc typiquement, si on regarde l'exemple précédent, en fait cet organisme tout simplement n'a pas implémenté ces trois protocoles. Sur SPF, il a probablement implémenté, mais de manière extrêmement peu restrictive, c'est-à-dire que derrière à peu près tous les mails arrivent dans la boîte mail. Et ensuite, typiquement, cet email aurait pu être bloqué si DKIM et DMARC avaient été implémentés. Donc là, ça c'est une recommandation qui finalement est un palier supplémentaire. Si vous avez un informaticien, commencez à regarder DKIM, commencez à regarder DMARC et commencez à vous y intéresser parce que ça va devenir des standards dans les années à venir. Aujourd'hui, si vous avez probablement regardé, si vous avez des comptes Gmail, si vous avez des adresses de messagerie grand public, vous avez sûrement remarqué un bandeau jaune qui vous indique que l'email n'a pas pu être vérifié. Alors, si vous avez ce bandeau jaune, et ça, je crois que c'est Gmail qui le fait, c'est tout simplement parce que DKIM et DMARC ne peuvent pas être vérifiés. Donc, du coup, ils vous indiquent qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'authentifier l'émetteur de l'email. Ce point est important parce que il vous protège vous-même des emails comme celui qu'on vient de voir, et il permet aussi de garantir à vos émetteurs que vous êtes bien l'expéditeur et l'expéditeur réel de l'email qui vient de recevoir. Alors, un dernier conseil. Vous avez vu, Michael vous l'a dit, il y a beaucoup d'intérêt à avoir un nom de domaine. Un des points que l'on a constaté dans Tous en ligne maintenant, c'est que finalement, la plus grande insécurité, le plus grand risque sur le nom de domaine, c'est de ne pas l'utiliser. C'est de l'avoir et de l'utiliser à minima ou de ne pas l'utiliser. Donc, un conseil, enregistrez votre nom de domaine, utilisez-le. Accédez à votre interface bureau d'enregistrement, mettez à jour vos données WHOIS et vous aurez mis le pas vers une utilisation à la fois sûre et puis bénéfique pour votre business, puisque vous serez capable d'entrer en contact avec ces 68, probablement plus que 68 aujourd'hui, 70-75% d'internautes qui, au moment de passer une commande, ont conscience qu'ils sont en train de le faire sur un nom de domaine sécurisé en .fr. Je te laisse, Michael.
Bon, si vous n'êtes pas endormi avec, si on vous a pas endormi avec tout ce qu'on vous a raconté, ce n'est pas si technique que ça finalement. Vous voyez que dans les noms de domaine, il y a une bonne partie juridique, il y a une bonne partie communication marketing. Je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut faire les bons choix, il faut réfléchir à son nom de domaine. Et un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est fondamental, finalement, je dirais qu'un nom de domaine, c'est un immatériel, c'est un actif immatériel de votre entreprise. Donc, vous devez le protéger, vous devez le valoriser. C'est-à-dire que si demain vous revendez votre entreprise, eh bien il faudra le valoriser. Si vous rachetez l'entreprise, il faudra s'assurer que le nom de domaine est bien inclus dans la transaction. Voilà, il n'y a pas de risque de ne pas utiliser son nom de domaine. Je vois qu'il y a une question, mais ce qui est sûr, c'est que si vous l'utilisez, vous ferez plus attention. J'ai mis dans le chat tout à l'heure mon mail. Si jamais vous avez des questions, je vais vous le remettre. Donc sinon, c'est michael.vivreux@afnic.fr. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer par email. Est-ce qu'on peut déposer un maximum de noms de domaine s'approchant de notre marque pour éviter les tentatives d'escrocs qui se font passer pour nous avec des noms s'approchant? Il y a plein d'entreprises, de grandes entreprises qui font ça. Je crois que j'avais un souvenir que Cdiscount, c'était plusieurs milliers de variantes qu'ils avaient enregistrées. Voilà, dites-vous juste qu'un nom de domaine chaque année, c'est environ entre 7 et allez, entre 7 et 12 euros en moyenne par an à payer. Donc, si vous avez 1000 versions de votre nom de domaine, ça vous fera environ 7 à 10 000 euros à verser chaque année. Ça peut faire une somme. Peut-être que juste enregistrer la version de base, la version accentuée en .fr, en .com pour vous protéger, ça a du sens. Et puis, si vous êtes basé en Bretagne, bah, communiquez en .bzh pour être plus proche des Bretons. Hein. Stade Rennais.bzh, Armorlux.bzh, Quimper.bzh, ce sont des sites qui existent. Le point Paris, si vous êtes parisien, ou si vous êtes même de l'export, que vous utilisez la marque Paris, bah, ça a du bon sens. Mais toujours, vous devez avoir et le .fr et le .com pour vous protéger du cyber squatting. Voilà. Et pour toutes les autres extensions, net, org, machin, on ne s'est pas étendu parce que ça n'a pas forcément d'importance. Donc voilà. J'ai un de mes clients qui me dit souvent, Mickaël, .fr, .com, point final. Bon, je pense qu'on a l'idée, dans cette phrase-là. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur réussiron.fr, vous pouvez aller voir, il y a plein, vraiment beaucoup de contenu gratuit. Voilà, c'est fait pour vous, ça fait partie de notre mission de venir éduquer les entrepreneurs. Merci encore au MEDEF pour cette invitation. On est vraiment ravis à chaque fois de pouvoir venir donner des conseils aux entrepreneurs.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.